Te voilà pris de saisissement, quand d'anciennes peurs refont surface. Est-ce cela qui te rend silencieux? Ressurgissent les ombres quand tes pensées retournent sur cette terre et que l'image surgit sur l'écran de tes nuits, comme si le noir te submergeait, t'engouffrant dans ses eaux violentes. Sans avoir comblé ce vide, te laissant au bord du chemin, le désarroi jeté à la face du monde.
Je dis la paix, pâle et soudaine, comme un bonheur longtemps rêvé, comme un bonheur qu'on croit à peine avoir trouvé. Je dis la paix, comme une femme, j'ouvrais la porte et tout à coup, ses deux bras autour de mon âme et de mon cou. Je dis la paix, cette fenêtre qui battit l'air un beau matin, et le monde ne semble éteindre qu'odeur du thym. Je dis la paix pour la lumière à tes pas dans cette saison, comme une chose coutumière à la maison. Je dis la paix pour les étoiles, pour toutes les heures du jour, aux tuiles des toits, et pour toi l'ombre et l'amour. Je dis la paix aux jeux d'enfance, on court, on saute, on crie, on rit. On perd le fil de ce qu'on pense dans la prairie. Je dis la paix, mais c'est étrange ce sentiment de peur que j'ai, car c'est mon cœur même qui change léger, léger. Je dis la paix, vaille que vaille, précaire, fragile et sans voix. Mais c'est l'abeille qui travaille sans qu'on la voie. Elle vacille, elle est peu sûre, comme un pied de convalescent. Encore écoutant sa blessure, son sang récent. La guerre a relâché ses rênes, la guerre a perdu la partie. Il en reste un son lourd qui traîne, mal amorti. Ce sont les chars vers les casernes qui font encore un peu de bruit. Nous danserons dans les luzernes jusqu'à la nuit. On reconstruira par le monde les merveilles incendiées. La vie aura la taille ronde sans mendier.
Versailles que nous ferons, les airs peuplés par les chimères de notre front, et l'immense laboratoire où les miracles sont humains, et la colombe de l'histoire.
Bonsoir. 1,343,000 jeunes Français appelés entre 1956 et 1962 ont été envoyés combattre en Algérie, dont plus de 13,000 ne sont pas revenus vivants. Bien sûr, au fil de cette série d'émissions à venir que nous leur consacrons, nous ne vous offrirons les témoignages que de quelques-uns de ces plus de 1,000,000 d'appelés, mais il nous paraît nécessaire aujourd'hui de donner la parole à ceux-là qui tous portent au fond d'eux-mêmes le traumatisme de leur vécu là-bas et à qui on n'a surtout pas demandé s'ils voulaient ou non participer à ces opérations militaires contre un peuple qui se révoltait pour obtenir sa liberté. Notre émission de ce jour est la première d'une série de trois réalisée à partir d'un entretien avec Michel Brett. De plus, Michel Brett, comme presque tous ceux avec qui nous conversons, n'appartenait pas aux classes bourgeoises qui, à coups de sursis ou autres stratagèmes, évitaient de subir l'épreuve à laquelle ils n'étaient surtout pas préparés politiquement et idéologiquement. Même si leur engagement politique, ouvrier et ou pacifiste, préexistait souvent à leur incorporation, d'où d'ailleurs, pour lui comme pour beaucoup d'autres, une difficulté supplémentaire à devoir accepter, sous la contrainte militaire, ce qu'ils désapprouvaient de tout leur cœur et esprit. Chaque témoignage est spécifique, et au-delà d'une certaine communauté d'origine de ces témoins acteurs, c'est aussi cela que nous tenons à faire apparaître à nos auditeurs à travers cette série de témoignages. Cela, mais bien d'autres choses aussi qui viendront au fil des récits. Je vous propose donc de retrouver Michel Brett au fil de notre entretien, accompagné d'illustrations musicales et autres dont certaines prendront leur sens au fil du récit. Ainsi, vous avez pu entendre en préambule un poème de Michel Brett, « Ta veilleuse », dit par Jeanne, et la chanson de Jacques Ivar, qui a mis en musique un poème d'Aragon qu'il interprète, « Le chant de la paix ». Dans cette première série de trois, nous vous proposons de retrouver Michel Brett qui évoquera son enfance, sa jeunesse et ses environnements et conditionnements de l'époque jusqu'au moment de son départ appelé par la conscription. Bonne écoute. Michel Brett, bonjour. Je te remercie d'accepter cet entretien pour Radio Canu qui portera en particulier sur ton expérience pendant la guerre d'Algérie. Mais on va peut-être avant présenter à nos auditeurs ton parcours, repartir du début, c'est-à-dire tu es né où et quand.
Alors merci Jean-Pierre d'ailleurs de me faire parler, mais quand même je me suis libéré des problèmes de l'Algérie, d'abord par le film « La guerre sans nom » de Tavernier qui m'a aidé. Ensuite, il y a eu Bernard Gerland, que j'ai suivi.
Donc, on peut dire qu'on s'est connus là il y a presque une quinzaine d'années.
Maintenant. Voilà. Alors, pour moi, la guerre d'Algérie, de par ma famille, ça a été un drame. Bon, mon oncle et ma mère étaient dans les FTP. Ils ont accueilli des résistants, ils en ont caché, et ça m'a engagé dans une certaine perception de l'humanisme, de la lutte contre la guerre, voilà, entre autres. Donc ma mère, comme tu le sais, a caché Aragon du 1er juillet 43 à environ septembre 44.
À Saint-Donat.
Tout ça pour dire que dans la vie, je crois que chaque homme a une histoire. et une histoire d'abord de famille, mais qu'il porte. Moi, je porte cette histoire. Et quand il a fallu partir en Algérie, j'avais cette histoire. Et ça m'a traumatisé de partir, parce que c'est des choses qu'on a discutées, par exemple avec mes oncles en 56. On a essayé d'aller sur le train qui va de Grenoble et qui emmenait des rappelés aussi, et des appelés qui partaient en Algérie, et on est allé se coucher sur les voies pour pas qu'ils partent à Beaurepaire.
56, c'était.
C'était 56, oui.
Je suis né en ces temps de fin de bal musette. En ces temps-là, Java est encore de la fête. Dans un dernier sanglot s'éteignent les lampions. Sur les parquets cirés, les couples se défont. Petites mains et cougettes ne vont plus aux guinguettes. L'ouvrier des faubourgs n'y vient plus faire un tour. L'on va plus en chantant dès les premiers beaux jours, près du fleuve à nageant, y rencontrer l'amour. La jeunesse en ces temps est partie pour la guerre, sous un soleil de feu, au Djebel de l'enfer. Garde Lyon sur les rails d'un convoi militaire, un groupe de femmes se couche. Là, on ne veut plus faire la guerre. Dans des caves enfumées, Boris mène la danse. Le jazz fait résonner des rythmes qui balancent. Des marteaux, des faucilles sur des chars envahissent deux peuples qui sont frères et pourtant se haïssent. L'accordéon déchu rengaine ses rengaines. De son souffle meurtri s'échappe un air de peine. Dans les cafés fleuris, aux terrasses ombragées, l'Amérique est entrée souffler sur nos pensées. Je suis né en ces temps où l'on faisait la fête, où l'on savait danser au son d'un bal musette. Excusez si mon chant est un peu nostalgique. Aujourd'hui la chanson, elle nous vient des Amériques.
Et donc, si on revient à ton histoire personnelle, tu es né où et quand ?
Alors, moi, je suis né à Romain, dans la Drôme, en 38. C'est-à-dire qu'au moment de la résistance, moi, les souvenirs que j'ai, c'est de 44, en gros. Ceci dit, ma mère venait souvent à Lyon. Elle retouchait les pantalons aux vêtements Essor, Cours de la Liberté. Ce qui m'a toujours surpris, d'ailleurs, c'est que ma mère était dans les FTP et le cousin des directeurs Essor, des vêtements, lui était dans l'AS. Et nous l'avons su.
Après la guerre. Oui, c'était souvent comme ça. Hein.
Oui.
Il fallait de la confidentialité, donc les gens pouvaient se côtoyer sans savoir.
Sans savoir. J'ai un souvenir, d'ailleurs. Ça devait être peut-être en mai, il faisait chaud, et ma mère était venue, puis, comme on restait des fois le week-end, il m'avait emmené sur les bords de Saône. Et on était là, on se baignait, et donc le cousin, lui, est arrivé après. On s'était en fait donné rendez-vous ici, sans que moi j'ai la maîtrise de tout ça. J'ai constaté, c'est après qu'on refait ce parcours, qu'est-ce qui s'est passé et ce qui nous a marqué. Et à un moment, ce cousin, on était tous ensemble, et s'est mis sur les bords de Saône, les automitrailleuses, et ça, je le garde.
Et c'était quoi, ces automitrailleuses? Des Allemands qui...
Les Allemands.
Mais ils n'en avaient pas après vous particulièrement?
Non,
là.
Mais de la Saône montaient des péniches. Et maintenant, moi, j'essaie de voir. C'était certainement des pays qui commençaient à rapatrier des choses, des matériels qui n'étaient pas faciles.
Ouais.
Et ça me situe. ça me situe dans mon parcours. Voilà.
Est-ce que tes parents avaient quelle activité professionnelle ?
Alors, ma mère était couturière. Mon père, mon oncle, étaient menuisiers. Donc, menuisier à Saint-Donat. Mon père, issu d'une famille catholique, avait épousé donc ma mère d'une lignée de mon grand-père avait été au parti socialiste, mais il était tendance communiste. Et mon oncle Émile, lui, a été dans les jeunesses communistes.
Et à Saint-Donat, tu y es allé à quel âge, donc, puisque né à Romans, 44 alors, à Saint-Donat, 43
donc,
en fait.
Donc, 38, je suis né en 38, juin 38. Mon père a été mobilisé en environ septembre, octobre, septembre, je pense septembre 39, mobilisé. Et à ce moment, à part des petits passages à Romans, ensuite il a été à Briançon. Il a été à Briançon environ jusque mois de, peut-être avril, avril de 40.
40, hein,
40, puisque mobilisé en septembre 39 et monté en avril-mai 40 dans les Vosges. Et mon père a été fait prisonnier en se repliant sur le Jura. Il a été fait prisonnier. Mon oncle Émile, qui était plus jeune...
Et prisonnier et emmené en Allemagne.
Et emmené en Allemagne.
Donc il a passé la guerre comme prisonnier.
Non. Il a été donc assez vite prisonnier. Et ma mère, à ce moment, n'était pas militante. Même si elle avait un regard comme quelqu'un de jeune avait à ce moment-là. Et mon oncle, Émile, était militant aux jeunesses communistes. Et mon père, prisonnier, ma mère est restée plus d'un an sans avoir de nouvelles. Et elle, c'est ma mère qui était une femme, elle était couturière, elle avait fait l'apprentissage de la couture, mais elle, c'était une personne réservée, timide. Et là, elle a pris en main les femmes pour faire des démarches, pour rechercher les prisonniers. Et ce qu'elle m'a dit, ce que je l'ai fait un peu parler, ça a été son premier engagement dans les FTP. Comme mon oncle Émile était au FTP, elle a agi avec les FTP. Mes oncles Émile n'ont pas fait d'action armée. Leur rôle a été de cacher. Hein. On a caché, beaucoup de gens sont passés chez mes grands-parents. La maison de mes grands-parents, est, parce que j'ai habité de 38 à environ 40 à Saint-Donat, mais ma mère seule est remontée vivre chez ses parents. Elle allait parfois à Saint-Donat. Plus tard, elle est venue à Lyon pour travailler, pour se faire
ses
un peu d'argent.
Ses parents étaient dans quelle commune ?
Alors, mes parents étaient donc de Saint-Donat. Ils étaient à Saint-Donat. Et mes grands-parents étaient à 11 km de Saint-Donat, dans une ferme. Mon grand-père était moitié menuisier, moitié paysan. Et la maison de mes grands-parents est sur une colline. Un avantage parce qu'on voit venir autour. Et ça a servi pour cacher des gens et voir.
C'est là qu'étaient Louis Aragon et Elsa Trigonnet.
Non, alors Louis Aragon et Elsa, les Andrieux, nom de résistance, ont été à Saint-Donat. Sachant que ma mère n'était pas souvent à Saint-Donat, quelqu'un de la famille était dans les FTP à Lyon, entre autres qui a fait les brigades internationales en Espagne.
Ça s'appelait comment,
tu sais ? Chevalier. Chevalier. Gabi Chevalier, d'ailleurs. Et un jour, il est venu, 43, courant 43, quand Elsa et Louis avaient peur à Lyon, parce qu'ils étaient cachés dans la maison de René Tavernier. Le père. À ce moment, Aragon allait dormir à Bron. On a découvert ça avec Jean Albertini. Je l'ai aidé, j'ai d'ailleurs, on pourrait le dire.
Il est où à Bron ?
J'ai plus en tête l'endroit.
Chez quelqu'un, un particulier.
Hein. Parce que ça risquait. Se sentant pas en sûreté à Lyon, et pensant faire le même travail réunir les intellectuels, à ce moment, les FTP les ont orientés vers Saint-Donat par l'intermédiaire de Gaby Chevalier qui a fait le lien.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir désœuvrés, incertains, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé. Et cela sans savoir nous regarde passer, répétant après moi les mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson? Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson. Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour qui ne soit à douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Et pas plus que de toi, l'amour de la patrie. Il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs. Il n'y a pas d'amour heureux, mais c'est notre amour à tous deux.
Ici, une pause pour préciser certaines choses. Tout d'abord, vous venez d'entendre « Il n'y a pas d'amour heureux », le poème de Louis Aragon, mis en musique par Georges Brassens, interprété là par Hélène Martin. Texte que Louis Aragon a écrit à Lyon, alors qu'il résidait clandestinement chez René Tavernier et qu'il vivait une grave crise de couple avec Elsa Triolet. Dans ce texte, il mêle son problème personnel à celui de la situation du pays, ce que beaucoup d'interprètes de la chanson ont évacué en n'interprétant pas le dernier couplet que vous avez pu entendre dans cette version. Ensuite, nous vous proposons d'entendre un extrait d'une émission Bistentlac, réalisé en direct ici même le 14 mai 2001 avec Jean Albertini. C'était alors la 9e d'une longue série de plus de 30 consacrée à Louis Aragon, longue série qui fut interrompue prématurément par le décès de Jean le 22 septembre 2006. Dans cet extrait, Jean évoque le séjour des Andrieux à Saint-Donat et rend hommage à la mère de Michel Brett. Cet extrait sera suivi de la chanson que Jean aura préalablement si bien présentée, Les Roses de Noël, poème de Louis Aragon, donc musique de Henri-Jacques Dupuis et interprétation de Monique Morelli.
C'est cette période extrêmement féconde, d'ailleurs, par ailleurs au niveau littéraire, de Saint-Donat, qui a commencé, comme on l'avait dit dans la dernière émission, au début juillet 43, et qui s'est terminée vraisemblablement autour du 8 ou du 9 septembre, lorsque Aragon et Elsa ont pu gagner Lyon, qui avait été libéré le 3 septembre, ville dans laquelle ils sont restés assez longtemps, mais enfin on va y revenir. Cette période de Saint-Donat, où ils sont complètement plongés dans la clandestinité, puisqu'ils viennent de Lyon, où ils étaient un peu en danger, et grâce à un réseau FTP, ils ont trouvé asile dans l'appartement, la petite maisonnette au fond d'une impasse que n'occupait pas Claire Brett, que je voudrais saluer ici, parce que elle vit encore, même si la maladie l'éloigne un peu de l'activité, et, y compris de l'activité de souvenir. Elle vit encore, et donc je voudrais la saluer ici, parce que c'est elle qui les a accueillis dans la petite maison qu'elle n'habitait plus, parce que son mari était prisonnier, elle s'était donc réfugiée dans un village qui s'appelle Saint-Martin-d'Out, à 10 km au nord de Saint-Donat, et son appartement étant libre, les Aragon et Elsa l'ont occupé. Du reste, tout cela est fort bien raconté par le fils de Claire Brett, Michel Brett, notre ami Michel Brett, qui est aussi un des militants de notre société, des amis d'Aragon et d'Elsa, et qui fait beaucoup pour eux, et qui est aussi un Lyonnais. Il habite à Irigny, dans la banlieue lyonnaise. Et il a raconté ça dans un article important et très intéressant qui est apparu dans le numéro 27 de notre revue Faites entrer l'infini en juin 1999. L'autre, alors on pourrait raconter ça par le détail, mais enfin c'est difficile et impossible. L'autre, alors ils étaient complètement clandestins, là il n'y avait que deux personnes qui savaient, du réseau qui savaient qu'ils étaient là. C'était d'une part Georges Sadoul, qu'on vient d'évoquer, et d'autre part Georges Ternet, qui était ce qu'on appelle son technique, c'est-à-dire qui s'occupait des problèmes d'édition, d'impression des textes et de la diffusion des textes. Et du reste, il a raconté à Aragon à ce propos un épisode assez curieux qui s'est passé sur la terrasse de Fourvière pendant encore la période lyonnaise, donc, lorsqu'il avait rendez-vous sur cette terrasse avec Georges Ternet, et que Ternet avait avec lui un texte qu'il avait dans sa poche, mais il pouvait pas trop le sortir parce que naturellement, il se méfiait toujours des gens qui étaient autour, même si sur la terrasse de Fourvière, ils étaient relativement plus tranquilles que dans une rue de Lyon. Et il a dit à Aragon, Ternet, tu vois, là, on a reçu un texte, mais il n'y a pas de titre. C'est un poème, il n'y a pas de titre. Je ne sais pas quel titre donner. Est-ce que tu pourrais pas le lire et puis me dire ? Alors, Aragon lui a dit, il est où ton texte ? Il dit, il est dans ma poche, là, ma poche gauche. Mais il a dit, sors-le un tout petit peu, que je vois. Et Ternet a sorti son texte, il a vu les deux premiers vers, et il lui a dit, mets comme titre, balade de celui qui chante dans les supplices. Alors l'autre a été surpris, parce qu'il ne pensait pas que le texte était d'Aragon, mais comme quoi le texte était arrivé à Ternet par une autre voix que la voix d'Aragon lui-même. Et bon, c'est comme ça que le texte a trouvé son titre. Bon, c'est une anecdote parmi beaucoup d'autres. Au niveau donc des poèmes, Saint-Donat, ça a été le journal en quelque sorte de la fin de l'occupation et de la libération. Bon, il y a aussi La Rose de Noël, qui est un très beau texte qui évoque justement ces roses de Noël qui sont l'image des premiers résistants des premiers résistants qui ont été sans doute les plus méritants, mais que dont on a tendance à oublier un peu le sacrifice au moment où tout le monde rejoint la résistance. La rose de Noël, qui est comme l'évocation de les roses viendront au mois de mai, juin, mais les roses de Noël, c'est quelque chose de tout à fait particulier.
« quand nous étions le verre qu'on renverse dans la verse un cerisier défleuri, le pain rompu, la terre sous la herse, ou les noyers qui traversent Paris. Quand nous étions l'herbe jaune qu'on foule, le blé qu'on pille et le volet qui bat, le chantari, le sanglot dans la foule. Quand nous étions le cheval qui tomba, quand nous étions des étrangers en France, des mendiants sur nos propres chemins, quand nous tendions au spectre d'espérance la nudité honteuse de nos mains. Alors, cela qui se levait fût-ce un instant, fût-ce aussitôt frappé, en plein hiver furent nos primevères et leur regard eut l'éclair d'une épée. Noël, Noël, ces aurores furtives vous ont rendu homme de peu de foi. Le grand amour qui vaut qu'on meure et vive, à l'avenir qui rénove autrefois. Oserez-vous ce que leur descendre ose, mes beaux printemps d'au-delà du danger. Rappelez-vous ce lourd parfum des roses quand l'huile étoile au-dessus des bergers. Pleure la poudre, procile des pâquerettes, ou s'il y perle une sueur de sang. Oublierez-vous la hache toujours prête, les verrez-vous avec des yeux absents. Le sang versé ne peut longtemps se taire. Oublierez-vous d'où la récolte vint, et le raisin des lèvres sur la terre, et le goût noir qu'en a gardé le vin.
Je crois que le grand enseignement qu'on peut tirer de la résistance, c'est justement cette possibilité de travailler comme ça, par un réseau.
Hein, souvent des réseaux très personnels, oui. Selon Descoux, hein, chez les FTP.
Tout à
peut-être
fait.
Aussi chez les gaullistes, d'ailleurs. Mais
l'AS, je pense aussi.
La confiance n'était suffisante, oui, que par des gens, oui, dont on, oui, était proche.
Ah oui. Et là, donc, on a caché beaucoup de gens. Je me rappelle quelqu'un qu'on a caché, qui est resté assez longtemps, qui avait été découvert. Il était résistant, il était chef du maquis de la Dordogne, et découvert, donc il a fallu vraiment qu'il le cache, et il est arrivé dans la maison. J'ai un souvenir comme ça, c'est qu'avec lui, on a creusé une baume, parce qu'il y a beaucoup de baume dans la Marne, et ça servait d'ailleurs. Comme on n'avait pas beaucoup de paille, ça servait pour les vaches, pour les à la place de la paille. Et celui, il a un peu joué le rôle de mon père. Alors il s'appelait François Sidou. Et il est resté, lui, peut-être 8 mois. Un beau jour, il nous a annoncé qu'il repartait.
Appelé ailleurs, hein? Et donc ton père, il s'est évadé ou...
Non, il ne s'est pas évadé. Alors mon père, lui, a été dans l'est de l'Allemagne. Il était donc menuisier, charpentier, et il réparait les toits. Au début, ils les ont fait travailler dans le bâtiment, pour construire, mais très vite, il s'est retrouvé à être appelé à aller... c'était vers Dresde, et là il déblayait les maisons, ceux qui étaient ensevelis, et en fait ils ont été peu en stalag, assez peu, ils étaient tout le temps partis d'un endroit à un autre. Mon père nous a peu raconté, très peu raconté. C'est quelque chose qui l'a marqué. Si j'ai une haine de la guerre, je crois que ça commence ici.
Il est revenu à quelle date alors? En 1945?
En 1945, il est venu dans les derniers. Moi, je le situe à peu près en mai 1945. Parce qu'il y avait, je me rappelle, il y avait beaucoup de soleil. Beaucoup de soleil. Alors, c'est vrai que beaucoup m'ont parlé, ton père va revenir, tu vas être content. Le retour a été très difficile pour refaire le lien entre moi et mon père.
Ben oui, parce qu'il y avait eu 5 années, donc 38, j'avais 6 ans. 40...
Ouais. J'allais avoir 6 ans en juin.
C'est-à-dire que tu n'as pas reconnu cet homme qui arrivait, quoi.
Non, tout à fait, oui. Et le lien s'est pratiquement refait au moment de sa mort, proche de sa mort. Et c'est le...
Il est décédé quand?
En 70. En octobre 70.
Donc ça fait beaucoup d'années avec un vide relationnel, c'est ça?
Ça a été un vide. Pour moi, j'en fais pas une critique, mais ça a été la difficulté d'ailleurs.
Elle venait de toi ou de lui, cette difficulté?
Alors, c'est difficile, moi je dirais des deux, mais peut-être que je peux me tromper, il faudrait... Alors moi j'ai essayé de refaire le parcours de mon père, parce qu'à la fois, comme c'était deux familles, une chrétienne assez dure du côté de mon père, communiste du côté de ma mère, pas été toujours facile, y compris du côté de ma mère. Moi, j'ai découvert qu'on ne me disait pas toutes les choses du côté de mon père, quoi. Ma mère ne me disait pas tout. Elle l'a plus enjolivé pour le côté de ma mère et noirci du côté de mon père. Mais ça, c'est...
Jusqu'à la fin, je veux dire...
Oui. Mais ma mère était dans son s'était enfermée là-dedans. Alors il y a aussi une chose qu'il faut dire qui a été difficile et qui explique peut-être la suite, c'est que ma mère a fait de moi son petit homme. Et le jour où mon père est rentré, mon père a repris sa place, mais moi j'avais plus ma mère. Et ce qui est étrange dans ça, on peut que l'analyser d'ailleurs, moi avec l'âge, c'est ce que je peux faire, c'est que moi j'ai retrouvé ma mère le jour où mon père est mort. Et ma mère a repris cette place qu'elle avait fait avec moi au moment de sa mort. Avec, j'aurais un tas de détails qui sont inutiles, mais qui font dire que... et moi, ça, en même temps, à un âge, ça m'a mis mal à l'aise, ça.
Parce qu'elle est morte en quelle année?
Et ma mère, ça doit faire 5 ans qu'elle est morte.
Ah oui.
Donc il y a peu de temps.
Je t'attendais ainsi qu'on attend les navires. Dans les années de sécheresse, quand le blé ne monte pas plus haut qu'une oreille dans l'herbe. Qui écoute apeuré la grande voix du temps. Je t'attendais et tous les quais, toutes les routes ont retenti du pas brûlant qui s'en allait vers toi, que je portais déjà sur mes épaules comme une douce pluie qui ne sèche jamais. Tu me remuais encore que par quelques paupières, quelques pattes d'oiseaux dans les vitres gelées. Je ne voyais en toi que cette solitude qui posait ses deux mains de feuilles sur mon cou. Et pourtant c'était toi, dans le clair de ma vie, ce grand tapage matinal qui m'éveillait. Tous mes oiseaux, tous mes vaisseaux, tous mes pays, ces astres, ces millions d'astres qui se levaient. Quand toutes les fenêtres pétillaient dans le soir, ainsi qu'un vin nouveau, quand les portes s'ouvraient sur des villes légères, où nous allions tous deux enlacés par les rues. Tu venais de si loin derrière ton visage que je ne savais plus à chaque battement si mon cœur durerait jusqu'au temps de toi-même ou tu serais en moi plus forte que mon sang. Tu venais de si loin derrière ton visage que je ne savais plus à chaque battement si mon cœur durerait jusqu'au temps de toi-même ou tu serais en moi plus forte que mon sang. Dans les années de sécheresse, quand le blé ne monte pas plus haut qu'une oreille dans l'herbe, qui écoute apeurée la grande voix du temps, qui écoute apeurée la grande voix du temps.
Et tu étais enfant unique.
Et alors, j'ai eu un frère après-guerre, en 48, hein, il a exactement 10 ans de moins que moi.
Il ne s'est pas trouvé pris dans la même problématique, lui.
Non. Non. D'ailleurs, ce qui est étrange, c'est que moi, je me suis occupé donc, avec Jean Albertini, maintenant je continue, je me suis occupé de la résistance, je continue à m'en occuper, de Aragon à Saint-Donat, je m'en occupe. Mon frère ne s'en occupe pas. Il ne peut pas avoir la même perception. Je crois que... Et puis moi, j'ai été mêlé à la résistance. Quand on redescendait de Lyon et qu'un jour... En quelle période, je ne sais pas bien dire, mais on mitraillait le train, moi, j'étais avec ma mère. J'étais, si tu veux, soudé avec ma mère. Ça nous a... Puis il y en a d'autres comme ça qui nous ont soudés. Hein. Et mon frère ne peut pas.
Il est arrivé après tout ça.
Quoi. Et ouais. Et ouais, c'est.
Donc ta scolarité, donc tu vas après cette fin de guerre, tu vas à l'école à Saint-Donat.
Je vais à l'école à Saint-Donat et à ce moment, j'ai qu'un désir, c'est m'éloigner de la relation de mon père et de ma mère. Je suis allé vivre chez ma grand-mère à Saint-Martin-d'Out où j'avais été très souvent enfant, et quand mes parents sont montés parce que mon père pouvait plus travailler, moi j'ai voulu revenir à Saint-Donat. Alors maintenant je suis capable de faire cette analyse. À ce moment-là je n'étais pas capable de comprendre ce qui se passait en moi, pourquoi cette fuite. J'ai très mal vécu quand mon père est rentré, quoi. Il faut le dire, même si j'en veux pas à mon père, même si j'ai refait une analyse de comprendre mon père, voilà, c'est. Mais je crois que je suis pas le seul dans ce cas, oui, à avoir mal vécu ce retour du mari.
Donc la guerre perturbe les enfants,
oui,
déjà pour le reste de leur vie, même
oui,
quand ils sont très petits, quoi, comme ça. Et cette scolarité, tu vas la poursuivre jusqu'à...
Alors non, j'ai une très très mauvaise scolarité, parce que je travaillais pas à l'école. Mon père, quand il est rentré, il était tout le temps malade. Ma mère s'est occupée de mon père et m'a délaissé. M'a délaissé, ça fait drôle de le dire comme ça. Et pourtant, elle m'a délaissé. Et arrivé à 17 ans, j'avais pas de métier. J'ai travaillé un peu avec mon père, qui était artisan. À 17 ans, je me suis dit, c'est pas possible. À ce moment-là, j'ai dit, moi, je veux partir à Lyon. Et je me suis mis à travailler à ce moment. Je suis allé prendre des cours de dessin des compagnons. J'ai travaillé avec les compagnons.
Mais dans la catégorie professionnelle de ton père, si on peut dire.
Oui, menuisier. J'étais menuisier. Mon père voulait que je sois charpentier, j'ai jamais voulu être charpentier. On n'a pas réussi avec mon père à trouver un accord.
Si je reviens un instant sur ta mère, elle est un petit peu responsable de cette situation, non? Parce que de s'être beaucoup appuyée sur toi quand son mari était parti, et te mettre un peu de côté quand il est revenu, c'est déstabilisant pour l'enfance.
Tout à fait.
Ça, c'est un peu de son fait, ça.
Mais...
Elle a peut-être des excuses.
Puis-je lui en vouloir?
Non.
Non. En plus, ça a créé un lien avec ma mère qui est... je ne sais pas comment dire, je n'ai pas le mot pour dire, pas incestueux, mais il y a quand même quelque chose où il y avait une relation avec ma mère qui, à des moments, a été amoureuse. Hein. Mmh. Ça fait peut-être drôle de dire ça, mais il faut le voir dans le sens, d'ailleurs... du problème psychologique.
Oui, sentimental.
Oui. Mais ça ne m'a pas empêché quand même de faire un retour, essayer de comprendre le parcours de mon père.
Moi je n'ai de comptes à rendre qu'un tout petit enfant blond qui contemple de ses yeux tendres le bonheur qui lui fait faux bond. Son printemps fleuri dans une cage balancé entre deux grands-mères et quelques oncles de passage pas assez doux, jamais sévères. Quand la vie vous fait ce coup-là, on voudrait crier au voleur. Mais ça ne la changerait pas, elle n'est pas maître du bonheur. Moi je n'ai de comptes à rendre qu'un tout petit enfant blond qui ne doit sûrement pas comprendre pourquoi j'ai quitté sa maison. Et la bonne mine l'enfance, quand on ne la vit qu'à moitié.
Donc on arrive là à 55, hein, si tu as 17 ans.
Oui.
Tu commences à entendre parler de la guerre d'Algérie à ce moment-là.
Alors, oui, même 54, parce qu'à la maison, c'était... En fait, ma mère est devenue une militante. Aragon, par exemple, avait poussé à ce qu'elle prenne le mouvement de la paix, et elle est devenue militante.
Donc elle avait adhéré au PC.
Elle a adhéré pratiquement en 1945, elle a adhéré au PC, elle a fait un congrès du PC à Strasbourg. Elle a été une militante, hein, et ça, moi, j'ai recherché d'ailleurs à Saint-Donat les gens qui l'avaient côtoyée, responsable du PC dans la Drôme. Et j'ai refait, moi, le parcours aussi de ma mère. Ça a été une militante. Moi, je la revois. Des fois, elle m'emmenait. Elle ne me laissait pas avec mon père. Elle m'emmenait lors de réunions. Je la revois un jour à la tribune pour le mouvement de la paix ou pour les élections qu'il y avait eu en 47. Je pense que pour elle, Aragon l'a émancipée. L'a émancipé et lui a fait sortir de, disons, ce petit train-train de la vie à la campagne. On peut dire que c'est Aragon qui a fait que ça s'est devenu une militante.
Oui, c'est un homme qui avait une personnalité telle que quand on était un peu en relation avec lui, ça devait être très fort. Quoi,
tout à fait, oui, oui. C'était, oui.
Oui. Donc la guerre d'Algérie, vous en parliez à la maison, et tu te disais déjà, peut-être qu'un jour, il faudra que j'y aille, ou pas du tout?
Dans les années 56, oui. Alors, en 56, oui. Mais il y a eu une réaction chez moi qui a été un peu étrange, parce que je me suis mis à Lyon, j'étais à Lyon, hein, on était une bande, et je me suis mis à... on va dire le mot un peu bringué, tu vois. Comme si savoir que tu allais partir, il valait mieux profiter de la vie avant.
Ah oui.
J'ai eu cette réaction. Moi, j'ai pas avant la guerre d'Algérie, j'ai été membre du Parti communiste avant. J'ai adhéré avant.
À quel âge tu as adhéré ?
Oh, je devais avoir 19 ans, à peu près 19 ans.
Sous l'influence de ta mère ou de ta propre initiative ?
Non, ma mère. C'est ma mère. C'est ma mère, ça, il faut le... Ouais. Parce que mon intention, moi, était de passer ma jeunesse, parce que j'ai beaucoup vu militer ma mère, beaucoup, et je m'ai dit, je vais attendre passer...
Plus tard.
Pour moi, c'était pensé comme ça, et là, ma mère m'a fait adhérer. Bon. Mais j'ai pas milité avant de partir, à part des manifestations que j'ai pu faire, dont celle en mai 58. Là, j'étais au Manimus, y compris dans les entreprises, on y allait. On y allait en groupe. Moi, j'étais dans...
Des manifestations syndicales ou par rapport à la guerre d'Algérie ?
Par rapport à la guerre d'Algérie.
Ah oui.
Par rapport à la guerre d'Algérie. Et je n'ai pas repris ma carte le temps que j'étais en Algérie, parce qu'on se rendait bien compte, les problèmes. Puis ça, c'est aussi des choses que j'ai discuté avec ma mère, qui m'a... la position du PC, c'était aller en Algérie.
Enfin, là, on reviendra là-dessus peut-être, on va suivre la chronologie.
Voilà,
donc,
ouais.
T'as 17 ans, oui, t'es pas encore appelé, mais tu penses qu'il va falloir sans doute partir, j'imagine.
Oui.
T'avais déjà de l'angoisse ou tu disais on va voir ce qu'on va voir?
Non, j'avais de l'angoisse. En plus, je ne suis pas d'un tempérament, comment dire, bagarreur. J'avais de l'angoisse, oui. J'avais une grosse angoisse qu'on cache à travers boire un coup.
Donc t'as fait la fête un moment.
Oui, oui.
Une fuite en avant, on peut dire, comment
on peut
qualifie
dire,
ça
oui,
comme
tout
ça.
Tout à fait, on peut le dire, et je crois que pour moi, oui, c'est ça. Ouais.
Et ça arrive comment, cette convocation à l'armée? À quelle date?
Alors, il y a d'abord eu les trois jours,
les
qu'on
trois
sait,
jours.
Qui est là à ce moment, c'est un an avant, c'est à 19 ans, ça te met déjà, on s'épuise. Moi, on avait l'UMA à la maison. Ma mère faisait des réunions aussi. On était à ce moment-là, par ma famille, on était vraiment contre cette guerre. Non pas simplement contre du point de vue politique. Ma mère m'a toujours dit, mon arrière-grand-père a fait la Commune de Paris, mon grand-père, guerre de 14. Son mari, 45, et le fils, guerre d'Algérie.
Ouais.
Oui, elle était dans cette ambiance.
Et votre opposition à la guerre d'Algérie, c'était parce que vous vouliez que... Enfin, vous estimiez que les Algériens devaient se libérer, ou vous étiez dans quel état d'esprit? Ou simplement, vous n'aviez pas envie d'aller mourir pour les colons?
Alors, on parle de 56.
Ouais.
56, on est contre la guerre. Il y a eu, de la part de ma mère, par son engagement au mouvement de la paix, contre la guerre. On ne fait pas la guerre. Alors, après, que ça soit politique, là, c'était... Non, c'est pas... Même si on lisait l'humain, même si c'était contre la guerre. Je crois que ça n'allait... Pour ma mère, c'était le point.
Oui, elle se serait accommodée d'un peuple algérien qui ait une autonomie, un peu plus de respect sous l'égide de la France.
Quoi. Oui.
Même si on se... C'était pas la position de des Algériens
non.
qui
non.
combattaient, bien
ah,
sûr.
Oui. Oui.
Mais on peut comprendre que les métropolitains voient ça comme ça.
Et même un peu après, quand on relit, le PC avait un petit peu cette position. Et puis il y avait ce mot d'ordre qui pesait. Il vaut mieux être avec les militaires que pas y aller. Et ça, ma mère était là-dedans. Il faut y aller, tu essaieras de t'en sortir. Voilà. Mais c'était... à la fois, elle n'avait pas un engagement par rapport à l'Algérie, c'était un engagement sur ce qu'on vient de dire. Hein, mm-hmm. C'est-à-dire, c'était contre la guerre. Voilà, ça, c'était l'engagement de ma mère.
Dors, mon amour, mon fils unique, chante une femme en Amérique. Chante en Amérique une femme à son garçon mort au Vietnam. Chante une femme à son petit, dors mon amour, dors mon chéri. J'irai à la place où tu dors, t'y bercerai jusqu'à ma mort. Je t'apporterai des cadeaux, ton vieux train et ton mécano, et l'étoile en papier d'argent. Dors mon amour, dors mon enfant. Chante une femme en Amérique, sur l'autre bord du Pacifique. Une mère au petit matin réveille l'enfant vietnamien. Debout mon fils, debout garçon, j'entends revenir les avions. Il faut reprendre nos bagages, on va faire un petit voyage. Surtout ne lâche pas ma main, on va courir très loin, très loin. Toi tu portes ton oiseau gris, moi les couvertures et le riz. Dans son fauteuil diplomatique, à Washington en Amérique, je dois rentrer dans mon argent, déclare Monsieur le Président. Et sur la carte du Vietnam, comme un monsieur qui joue aux dames, il fixe les bombardements et la marche des régiments. Il pose son doigt sur un point courant, ne lâche pas ma main, il a posé son doigt ici. Dors mon garçon, dors mon petit. Dors, mon amour, mon fils unique. Chante une femme en Amérique. Chante en Amérique une femme à son garçon mort au Vietnam.
Ainsi se termine cette première émission d'une série de trois consacrée à Michel Bret, qui a fait partie de ces 1 343 000 jeunes Français appelés entre 1956 et 1962 pour aller combattre en Algérie, dont plus de 13 000 ne sont pas revenus vivants. Au fil de cette émission, vous avez pu entendre les dernières illustrations musicales suivantes. Je t'attendais ainsi qu'on attend les navires, le poème de René Guy Cadou, mis en musique et interprété par Michel Bernard. Un extrait de L'Orphelin, une chanson de Bruno Brel qu'il interprétait. Puis c'était Jean Arnulf qui, sur les paroles de Martine Méry et sur sa propre musique, interprétait Chante une femme. Nous vous proposons de retrouver Michel Bret la semaine prochaine pour évoquer son départ, puis le début de son séjour en Algérie et le quotidien de la peur dans lequel il allait être plongé. Bonsoir. Thank you.
Thank you.